France Culture.
Oui, donc la question c'est qu'il n'y a pas de conducteur sur mon bureau.
France Culture.
Trop de papier dans cette vie. J'en peux plus de tourner des pages. Bonjour.
Ça va?
Ça va et vous?
Ça va.
Le Book Club.
On a une carafe d'eau mais on n'a pas de verre. Donc il faut qu'on aille chercher des verres.
Il dit qu'il m'amène un thé.
Oh.
Donc je suppose que...
Bon, enfin, vous allez voir à quel thé vous allez être mangé.
Dans la bibliothèque de Yolande Zoberman.
C'est quand même un thé de machine, hein.
C'est chaud.
Ok. Donc, pour ce qui est de nous, qu'est-ce qu'on se disait avant ça?
On peut commencer par ça.
Après, il y avait...
Ouais.
Mais bon, de toute façon...
On verra, on parle au fur et à mesure, on laisse venir, quoi.
Absolument.
Marie Richeux.
En 2012, deux questions sont formulées en anglais dans la ville de Tel Aviv la nuit. Vous abordez des inconnus en leur demandant « Would you have sex with an Arab ?» Coucheriez-vous avec un ou une arabe? Et aux autres, would you have sex with a Jew? Coucheriez-vous avec un juif ou une juive? Ces phrases prétendument intimes, dans un anglais qui leur confère à tort ou à raison une dimension universelle, ouvrent des échanges très politiques sur la vie de celles et ceux qui l'entendent. Et c'est vous qui posez cette question, Yolande Zoberman. Elle devient l'un des titres d'un film documentaire qui ouvre une trilogie sur la ville de Tel Aviv. Quelques années après, vous signez avec Paulina Mikol-Spiechowicz une encyclopédie d'expressions étrangères qui n'ont pas d'équivalent dans la langue française. Ça s'appelle « Les mots qui nous manquent ». De la même manière, cette réflexion sur le langage centre à la fois du côté de la littérature, de la philologie et de la géopolitique. Enfin, dans le film « Moi, Yvan, toi, Abraham », sélectionné à Cannes en 1993 et restauré pour une sortie en salle le 10 décembre 2025, les uns et les autres, dans cette Pologne des années 30, sont régulièrement rappelés à se parler en yiddish. Injonction dont on saisit là encore, même quand on ne les comprend pas toujours en profondeur, toutes les implications intimes, historiques, voire de survie. Voilà des questions de langue et de mots qui se mêlent immédiatement à des questions de corps, d'histoire, de violence, d'amitié, de vie et de mort. Ça nous a donné envie de savoir quels mots vous lisiez volontiers, quels livres vous avez trouvés sur votre chemin. Merci beaucoup, Yolande Zoberman, d'avoir accepté de déballer votre bibliothèque pour le Book Club. Bienvenue chez vous.
Merci.
Alors je redis ce titre, « Moi, Yvan, toi, Abraham ». C'est un film de 1993 qui sort donc dans une version restaurée, le 10 décembre 2025. D'ailleurs, j'ai tout de suite, en ouvrant cette bibliothèque, j'ai une image d'une grande salle d'études dans laquelle voilà, les personnes sont en train de lire, de psalmodier, d'étudier. Il y a un petit garçon qui dit « J'arrive pas à prier, je sais pas pourquoi j'arrive pas à prier ». Il rejoint son père « Mais pourquoi t'arrives pas à prier ? Je sais pas pourquoi, j'arrive pas ». Il bute sur quelque chose. Qu'est-ce que vous avez comme rapport au livre, vous, Yolande Zoberman ?
Ben, moi, les livres, ça m'a un peu sauvé la vie, avant les films. J'ai commencé par les livres, mais très vite les films sont arrivés aussi. Ça a été ma fenêtre sur le monde. J'étais une petite fille très immobile. Je jouais pas, j'avais pas de poupée, je parlais pas. Et je lisais beaucoup. C'est-à-dire que j'allais dans la bibliothèque de ma sœur ou de mon frère et je prenais des livres que je comprenais pas entièrement, mais que je lisais.
Ils étaient beaucoup plus âgés?
Ouais. Et ça m'a formée. J'avais lu... J'ai lu Boris Vian comme ça, très petite. J'ai lu Autant n'emporte le vent. Alors ça, c'était formidable parce qu'il manquait les dernières pages. Et ça m'a donné...
dans le livre que vous trouviez chez vos frères et sœurs.
Ouais, et du coup, un peu comme dans le film dans Palombo Bella Rossa de Nanni Moretti, je me refaisais toutes les fins possibles. Et d'une certaine manière, ça a bien correspondu à mon caractère, ça. D'essayer d'imaginer...
Toutes les fins possibles, ouais. D'autres fins possibles. Quand vous dites que ça vous a, par exemple, sauvé de l'immobilité, comment on bouge en lisant un livre? Pourquoi ça fait bouger?
On bouge dans la tête de façon extraordinaire. En fait, moi j'étais paralysée, mais je ne m'ennuyais pas du tout. Je rêvais tout le temps où je lisais. Et puis après, je me cachais dans la chambre de mes parents quand ils n'étaient pas là. J'ouvrais la télé, je regardais des films. Du coup, mon monde était... totalement, en même temps imaginaire, en même temps très réel, parce que c'est très réel, le monde qui est décrit dans les livres. Ou, par exemple, Guerre et Paix, pour moi, ça a été toute la littérature russe a été une rencontre extraordinaire. Au fond, je me suis très, très rarement projetée dans les livres, à part justement chez les Russes.
Ça veut dire quoi, projeter ?
Je me prends jamais pour un des personnages du livre.
Et ça passe par quoi alors, si c'est pas de l'identification?
Ben c'est le regard, en fait. Et comme effectivement j'ai passé mon temps à regarder les autres, avoir... Ma mère avait cette faculté d'inventer des histoires en regardant les gens dans la rue. Elle leur donnait une biographie sans les connaître.
Et en les partageant avec vous ?
Parfois, oui. Et en fait, voilà, c'était... Regarder, c'était le plus important pour moi, ouais. Et c'est devenu ce que j'ai fait après, c'est ce qui m'a... La chose la plus importante pour moi.
De regarder.
En fait, je crois qu'on est ce qu'on regarde. On est ce qu'on voit. Pas tant ce qu'on regarde, mais ce qu'on voit. Et on voit tous des choses différentes.
Et on devient ça ?
Ouais, je crois.
On ne devient pas la capacité à le voir, plutôt ?
On peut aussi, mais quand même, on devient ce qu'on voit. Et ce qu'on voit nous représente. Je me rappelle avoir lu des témoignages sur la dégradation de Dreyfus, par exemple, où on parlait de son arrogance parce qu'il se tenait droit, parce que... Et j'ai lu la lettre qu'il a écrite à sa femme, où, grâce à laquelle il ne s'est pas suicidé, en fait, tellement il se sentait humilié. Et il lui disait, je pensais à toi et j'essayais de tenir. Et je me disais, voilà, c'est deux façons de voir. Et moi, je pense vraiment que ce qu'on voit nous représente.
Donc vous dites, ma lecture ou la puissance de ma lecture n'est finalement que très peu passée par la possibilité de s'identifier au personnage, sauf chez les Russes. C'est ça ?
Sauf chez les Russes ?
Ouais. Là, vous pouviez être un des personnages.
Ouais, je sais pas pourquoi. Il y avait
dans Guerre et Paix, par exemple.
Dans Guerre et Paix, ouais. Et aussi, par exemple, dans Vie et Destin de Grossman. Parce que je trouve que les personnages de la littérature russe ont ces ambivalences très fortes, très acceptées. Dans Vie et Destin, il y a un personnage comme ça, qui rentre chez lui et il voit sa femme en train de parler avec la femme de quelqu'un qui a été arrêté par le KGB. Il se dit, ah là, c'est terrible, qu'est-ce qui va nous arriver ? Il a tellement honte de ce qu'il pense qu'il s'approche de cette femme et il lui dit, mais tu peux rester dormir ici si tu veux. Et voilà, tout ce mouvement entre cette discussion avec lui-même et le fait d'aller, c'est... Moi, je me sens comme ça. Je suis capable de l'acheter dans ma tête et je suis capable de courage quelquefois. Et donc, ces grands écarts me plaisent, voilà. Ces grands écarts, c'est pas tellement qu'ils me plaisent, c'est que je peux m'y reconnaître.
Et ça fait quoi de se reconnaître dans un personnage en littérature ? Parce que vous dites finalement, ça m'a sauvé de l'immobilité, de la paralysie, enfant. Et puis vous passez à quelque chose de tout autre qui est se reconnaître dans un être de mots.
Ça sauve parce que tout d'un coup il y a un monde possible et même si ce monde en littérature il est vraiment comme un rêve dans la tête, moi mes rêves c'est, je pouvais rêver quelquefois 18 heures par jour, c'était vraiment quelque chose et au fond les rêves c'est les premiers films qu'on se fait et d'une certaine manière le cinéma a toujours existé parce que les rêves ont toujours existé. Et mon corps s'est réellement mis à bouger avec le cinéma. C'est-à-dire que là, tout d'un coup, il y a quelque chose que j'ai compris. Et quelque chose qui m'a mis debout, littéralement, en fait.
Et vous avez compris quoi ?
En fait, j'ai compris ce qui se passait, quoi. J'ai compris...
Mais pour vous ou pour le monde ?
Pour moi, comment regarder ou me mettre... Et du coup, mettre la caméra, comment m'approcher des gens. Par exemple, ce film, moi, Yvan, toi, Abraham, qui sort, on a eu une projection l'autre jour à la Cinémathèque et les gens disaient, mais comment vous avez fait ça? C'est impossible à faire. Et pour moi, c'était très simple à faire. C'était pas du tout.
Qu'est-ce qui
trouvait
impossible dans ce film?
Mais c'est une grande fresque avec presque je sais plus de 60 acteurs dans l'Union soviétique qui explosait. Je veux dire, souvent ce qui est difficile pour les autres est très facile pour moi et le contraire, ce qui est très facile pour les autres est très difficile pour moi. Et là, on était tous tous étrangers d'une certaine manière. Moi, j'ai choisi des gens pour leur talent dans ces pays et dans tous les ex-pays de l'Union soviétique. On allait de studio en studio, c'était génial. On se faisait des projections et on se disait, waouh, là, le maquillage, il est très beau. Est-ce qu'on peut rencontrer le maquilleur? Voilà, là, il y a un travelling, alors qu'il y a peu de tradition de travelling dans ce cinéma. En plus, moi, je connaissais assez bien le cinéma soviétique et qui était très intéressant parce que c'était un cinéma qui était produit par des directeurs de studio qui étaient complices avec les metteurs en scène. Les metteurs en scène savaient que leur film avait allait être censuré d'une manière ou d'une autre. Et du coup, ils faisaient ces films pour eux et pour leurs amis. Et il y avait un milliardaire rouge qui s'appelait Doumengue qui sortait ces films et qui les montrait à Paris au cinéma Cosmos. Et moi, quand j'ai dit que j'allais faire un film là-bas, par chance, ils m'ont montré les films tous les matins. Et donc je voyais les films avec des comédiens avec lesquels j'ai travaillé, en fait. Hein. Et j'avais vu leurs films, eux avaient quasiment pas vu ces films. Et c'était une merveille. Voilà, tout ça était une aventure humaine dans laquelle on avançait tous. En plus, ils apprenaient le yiddish, comme vous dites, alors que la plupart étaient pas juifs, en fait. Et le professeur de yiddish qui les bouleversait était, parce qu'il y avait un très grand metteur en scène de théâtre d'avant-garde yiddish qui avait été soutenu au départ par Staline et qui après a été éliminé avec tous ses comédiens. Et ce jour-là, le jour où ils ont tous été éliminés, il y avait deux comédiens qui n'étaient pas là, une jeune femme et un jeune homme, et qui pour des raisons personnelles n'étaient pas venus. Et le professeur de yiddish du film, c'était ce jeune homme qui n'était pas venu. Et donc, il était bouleversé, et tous les comédiens étaient bouleversés par lui. Et celui qui jouait Abraham, en plus, c'était un petit gitan, un petit tzigane. Et au départ, il me disait, le professeur, non mais il n'y arrivera jamais, il ne sait pas lire, il ne sait pas écrire, il faut l'amener chez un psychologue. Et moi, je lui dis, non, je crois que c'est toi qu'on va amener chez un psychologue, parce que tu ne peux pas croire qu'un petit gitan puisse apprendre le yiddish. Et en fait, ça s'est très bien passé, c'était génial.
J'ai commencé cette émission, Yolène Zoberman, en parlant de, voilà, de deux, trois choses que j'ai attrapées dans votre parcours qui avaient rapport à la langue. Cette phrase que vous prononcez en anglais dans la nuit de Tel Aviv, mais aussi ce projet quelques années plus tard sur les mots qui nous manquent. Et puis la place de la langue yiddish dans ce film restauré. Vous diriez que vous avez une attention particulière à la langue qu'on parle?
Je crois que mal nommer les choses, comme le dit, je crois que c'est Rapin, rajoute au malheur du monde. Et je pense qu'il faut effectivement faire attention. Moi, quelquefois, je les nomme mal aussi. Hein. On essaye tous des choses, surtout quand on cherche. Quand on cherche, on peut se tromper. Par exemple, les mots qui nous manquent, moi, j'ai voyagé beaucoup pour mes films et j'ai remarqué qu'effectivement, il y avait des mots qui existaient dans des langues et qui n'existaient pas chez nous, et j'ai compris que ces mots étaient au centre des cultures et voulaient dire quelque chose de très profond. Et nous, on devait utiliser des phrases très longues et très compliquées pour les traduire. Donc ça veut dire que tous ces sentiments sont universels, mais ils sont pas au même endroit selon la culture. Et il y a des identités de culture. Il y a des identités de langue. Et c'est vrai que pendant qu'on le faisait avec Paolina, c'était génial, c'était un plaisir. Les gens venaient nous offrir des mots. C'était des cadeaux, quoi.
Vous avez un souvenir en particulier d'un intraduisible comme ça?
Ben, il y a le zar, par exemple. Le zar, c'est l'inconnu invisible qui vient vous visiter la nuit, souvent, surtout pour les femmes. Ça peut être l'amant de la nuit. Le zar, c'est...
Le zar, dans quelle langue?
En arabe. Le zar, c'est le zar, le sang, la musique, les fêtes. Et quand vous faites une fête réussie, qu'il y a des gens qui se connaissent et d'autres qui se connaissent pas, quand ça prend, c'est que les zars sortent et discutent ensemble. Et on comprend bien ce que ça veut dire. Et donc, c'est l'étranger invisible qui vous habite. Voilà, moi, je pense que je, y compris dans Moi, Yvan, toi, Abraham, où en fait, à chaque fois, chaque fois qu'on pense trouver l'autre, c'est encore un autre qui advient. C'est encore un autre qui arrive. Et donc, moi, ça me passionne, l'autre. Je me rappelle que quand j'étais en Afrique du Sud, et que ce qui m'interrogeait le plus, c'est pas tant l'exploitation. On peut comprendre pourquoi des gens veulent exploiter d'autres gens, c'est pour leur plaisir, c'est pour être servi. Mais ce qui m'interrogeait vraiment, c'était le fait que des gens se coupent à ce point de la vie, quoi. Et ça, j'avais remarqué ça. Il y avait une jeune femme turque à Berlin un jour qui m'a dit « Nous, on a tout le temps des visites, toutes les générations chez nous, et il y a un couple de vieux Allemands au-dessus. » Bien sûr, pour eux, c'est un peu insupportable parce que leurs enfants viennent deux fois par an les voir. Et nous, ça nous fait de la peine et on a envie de leur dire « Mais venez, on va s'occuper de vous. » Et je me suis dit « Ben voilà, c'est ça, c'est tous ceux à quoi on ne se mélange pas. C'est toute cette chaleur dont on aurait besoin. » Et à laquelle on ne se mélange pas.
Ça ressemble à quoi, votre bibliothèque, aujourd'hui ?
Elle est énorme. Alors, elle était très bien classée. Elle était classée par langue et par ordre alphabétique.
Chapeau.
Et, langue d'origine, hein, parce que moi, je lis en français, je me connais en français. Et aujourd'hui, comme on a déménagé, elle est malheureusement mélangée.
Bordélique. Mais vous vous y retrouvez quand même ?
Pas trop. Non, pas trop. Il faudrait remettre de l'ordre là-dedans. Mais c'est beaucoup de travail.
Mais grosso modo, c'est donc beaucoup de livres qui étaient anciennement bien rangés, Yolande Zoberman, et qui aujourd'hui, beaucoup de romans, beaucoup de poésie.
Moi, je lis beaucoup de romans. Beaucoup de romans. Les essais, la philosophie m'émeut énormément. Mais j'aime l'entendre. Pour moi, j'aime l'oralité. Et il n'y a que les romans où j'arrive à plonger totalement. Et d'ailleurs, Maya Angelou, c'est comme ça que je l'ai découverte. Je l'ai découverte dans une exposition à la Maison Rouge qui s'appelait Les Poupées Noires. Et c'était, il y avait un film et sur ces poupées pour les petites filles noires, ces poupées qui étaient d'un côté noire et de l'autre côté blanche, il y avait une voix mais extraordinaire qui lisait un poème.
C'était celle de Maya Angelou.
Et je ne savais pas qui c'était. J'étais avec un ami américain. J'ai dit mais qui c'est cette voix? Et il m'a dit, mais c'est Maya Angelou. Et aux États-Unis, elle est extrêmement connue. En France, très peu. Maintenant, elle est traduite. Mais c'est depuis peu, en fait. Hein, depuis, je sais pas, 5-10 ans maximum. Et c'est magnifique.
Et ben, on va entendre tout à l'heure votre lecture de Maya Angelou et d'autres. Des textes de Roberto Bolaño, des textes de Selim Nassib. On va entendre vos choix, parce qu'à chaque invité, on demande 5 livres étapes, juste après ça.
Molti. Molti. Molti colors heart, multi colors brain, multi colors sex, multi colors love, multi colors nature, multi color human, multi colors animals, multi color laugh, multi colors, multi colors, multi color. Multicolor, multicolor freedom, multicolor culture, multicolor country, multicolor light, multicolor mental, multicolor shadow, multicolor taste, multicolor food, multicolor rainbow, 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 multi, 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 multi color, multi, 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 multi color. Look, everything you took, coming back a look. I wouldn't hate you just because it's written in a book. Don't eat what they puke, love is what I cook. What you ever wanted is so simple, have a look. Everything you took, coming back a look. I wouldn't hate you just because it's written in a book. Don't eat what they puke, love is what I cook. What you ever wanted is so simple, have a look. Multi, 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 color. 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 Multi, color, heart, brain, sex, love, nature, human, multi, color, animals, laugh, freedom, culture, country, multi, color, light, mental, shadow, taste, food, rainbow, multi, color, art, trees, thoughts, streets, where it's life.
France Culture. Le Book Club dans la bibliothèque de Yolande Zoberman. Marie Richeux.
Franchement, quelle beauté. C'est un morceau de Yael Naïm, un extrait de son disque à venir. On entre dans la deuxième temps de cette bibliothèque Yolande Zoberman. Donc, je le disais, on vous a demandé, comme à tout le monde, de choisir cinq textes étapes. Vous évoquiez Maya Angelou, poétesse américaine que vous découvrez dans une exposition. Est-ce que vous voulez nous dire deux mots avant de nous dire les poèmes que vous avez choisis?
Franchement, je regrette de ne pas avoir découvert Maya Angelou bien avant. J'adore ses... Bon, il y a ses poèmes, mais il y a ses textes de prose. Et dans ses textes de prose, vraiment, si j'avais lu ça quand ma fille était petite, ça aurait changé quelque chose.
Quoi, par exemple?
Tous ses livres sont tendus vers sa mère. Et sa mère lui explique que... Sa mère qu'il a abandonnée pendant longtemps et qu'il a retrouvée après ses 13 ans. Sa mère qu'elle trouve extraordinaire. Et sa mère lui dit, l'important, c'est d'être la meilleure de tout. Quoi. Même si t'es prostituée, il faut que tu sois la meilleure. Et il y a quelque chose chez elle qui dit toujours tout, qui a un rapport à la vérité et qui a un rapport au plaisir aussi. Elle est très proche d'ailleurs de James Baldwin. Il y a quelque chose dans leur façon de parler, dans leur façon d'écrire qui est proche. Mais elle me fait penser aussi à un artiste contemporain qui est Arthur Jaffa, qui faisait des collages tellement beaux, qui montre en même temps la brutalité à laquelle sont exposés les gens aux États-Unis qui sont noirs. Et en même temps, il montre à quel point c'est incroyablement jouissif d'être noir. Et du coup, vous, spectateurs, vous êtes en même temps horrifiés, en même temps jaloux. Et je trouve que ce mélange est magnifique.
On vous écoute dans une lecture de deux poèmes. Le premier s'appelle comment ?
Femme phénoménale. Les jolies femmes se demandent où se cache mon secret. Je ne suis pas mignonne. Je n'ai pas la taille mannequin. Mais quand je leur explique, elles pensent que je mens. Je dis, c'est dans l'ampleur de mes bras, la taille de mes flancs, l'allant de mes pas, la moue de mes lèvres. Je suis une femme, phénoménalement. Femme phénoménale, c'est ce que je suis. J'entre dans une pièce, décontractée à souhait, et pour un homme, ils se lèvent tous ou tombent à genoux. Puis ils pullulent autour de moi, essaim d'abeilles butineuses, je dis. C'est le feu dans mes yeux et l'éclat de mes dents. Le swing de mes hanches et la joie dans mes pieds. Je suis une femme, phénoménalement. Femme phénoménale, c'est ce que je suis. Les hommes eux-mêmes se sont demandé ce qu'ils voient en moi. Mais ils ont beau essayer, ils ne peuvent pas toucher mon mystère intérieur. Quand je tente de leur montrer, ils ne voient toujours pas. Je dis, c'est dans l'arc de mes reins, l'astre de mon sourire, la prestance de mes seins, la grâce de mon style. Je suis une femme, phénoménalement. Femme phénoménale, c'est ce que je suis. Maintenant, vous comprenez bien pourquoi je ne coupe pas la tête, je ne crie pas, je ne saute pas partout. Et je n'ai pas besoin de parler vraiment fort. Quand vous me voyez passer, ça devrait vous emplir de fierté. Je dis, c'est dans le claquement de mes talons, le galbe de ma chevelure, la paume de ma main, le besoin de mes bontés, car je suis une femme, phénoménalement. Femme phénoménale, c'est ce que je suis. Ça, c'est le premier poème. Le deuxième, c'est celui que j'ai entendu d'ailleurs, à la Maison Rouge.
Et qui s'appelle ?
Pourtant, je m'élève.
Initialement écrit donc en 1978, et vous le lisez, Yolande Zoberman, dans une traduction de Santiago Atoshki. On vous écoute.
Tu peux me faire passer à l'histoire, avec tes mensonges pervers, et me traîner dans la poussière, mais comme elle, je me soulèverai. Mon exubérance t'irrite-t-elle ? La tristesse te gagne, pourquoi ? Parce que j'avance comme si j'avais des puits de pétrole chez moi. Tout comme les lunes et les soleils, aussi sûrs que les marées, tel un espoir qui se réveille, toujours, je me lèverai. Voulais-tu me voir brisée, la tête courbée, les yeux baissés ? Mes épaules tombant comme des larmes, par mon âme en pleurs diminuée? Est-ce mon dédain qui t'offense? Tu peines vraiment à l'accepter, car je ris comme si des mines d'or dans mon jardin étaient creusées. Tire-moi dessus avec tes mots, saigne-moi donc avec tes yeux, tue-moi avec ta haine, mais pourtant, comme l'air, je m'élèverai. Mon côté sexy te dérange, et pour toi est-ce une surprise que je danse comme si des diamants nichaient au croisement de mes cuisses? Des taudis honteux de l'histoire, je m'élève. D'un passé pétri de souffrance, je m'élève. Tel un océan noir, bondissant et immense, débordant, grossissant, je porte la marée. Abandonnant les nuits de terreur et d'effroi, je me lève. Dans une aurore à l'éclat merveilleux, je m'élève, apportant les cadeaux offerts par mes aïeux. Je suis le rêve et l'espoir de l'esclave. Je me lève, je me soulève, je m'élève.
Out of the huts of history's shame I rise. Up from a past rooted in pain I rise. A black ocean leaping and wide, welling and swelling, I bear in the tide. Leaving behind nights of terror and fear, I rise into a daybreak miraculously clear. I rise, bringing the gifts that my ancestors gave. I am the hope and the dream of the slave. And so, naturally. There I go rise.
C'est la fameuse voix qui vous a attrapé un jour, ça, Yolande Zuberman. Maya Angelou, née en 1928 et morte en 2014. C'est par ça qu'on entre, et c'est marrant, vous commencez en fait le déballage de votre bibliothèque par une découverte récente. C'est
oui,
beau ?
J'aime bien le présent, moi.
Ouais, c'est exactement ce que je me suis dit. Je me suis dit, ça permet de parler au présent, même si c'est...
Ouais, j'aime bien le présent. Je pourrais, c'est vrai que selon le moment, on peut parler de plein d'autres auteurs, mais franchement, dans ces dernières années... Maya Angelou et Sergueï Dovlatov, ça a été mes deux grandes découvertes.
Alors on y va, vers ce deuxième Sergueï Dovlatov. Est-ce que vous nous en dites quelques mots peut-être pour introduire votre lecture? C'est votre deuxième choix?
Dovlatov, c'est un voisin arménien qui me l'a conseillé.
Comme ça?
Ouais, j'ai été le voir en lui disant, j'ai jamais lu de livre arménien, dis-moi ce que je pourrais lire. Et j'ai toujours été très... sensible, en fait, à ce que je voyais de la culture arménienne, Pélékian, les films. Et donc...
Vous faites ça souvent ou pas? D'aller voir les gens leur disant...
Ouais, moi j'adore...
Qu'est-ce que tu me conseilles?
Je cherche. Et,
vous cherchez quoi?
Je cherche, mais selon ce que je cherche, c'est-à-dire c'est toujours lié à ce que je vis, au moment où je le vis... Et donc, il me parle de Sergueï Dovlatov, qui a toutes les origines, qui effectivement est arménien, géorgien, juif, russe, et qui est un homme, franchement, j'aurais aimé qu'il soit mon ami, quoi. Et c'est un homme qui inverse tout, qui est très drôle.
Il est mort en 1990, il est né en 41, du coup c'était trop tard pour qu'il
soit vraiment... c'était trop tard pour moi, mais franchement il correspond à tout ce que j'aime, c'est-à-dire une espèce d'ironie mais jamais cynique. Tous ses livres, moi je conseille vraiment tous ses livres. Il y a La Zone, bien sûr, dont je vais lire un extrait. Il y a Les Nôtres, c'est très drôle. Les Nôtres, c'est toute sa famille, c'est incroyable. Il y a La Valise, c'est-à-dire tout ce qu'il met dans sa valise pour partir. C'est quelqu'un qui a pas voulu partir de l'Union soviétique alors que il faisait partie d'un groupe de gens qui n'étaient jamais lus, jamais vus, jamais
censurés même.
Et en fait, c'est extraordinaire parce que ça veut dire qu'ils créaient sans avoir besoin de retour sur eux-mêmes. Bien sûr, c'était pas agréable, mais ils étaient entre eux. Et puis, il y a ce rapport que moi, j'aime beaucoup en Russie parce que c'est un mélange entre l'Orient et l'Occident, en fait. Il y a quelque chose de chaleureux. On aime aimer. Et c'est quelque chose en France qui me manque parfois.
Oh non, on aime aimer ici aussi, franchement. Un extrait de La Zone, Souvenir d'un gardien de camp, c'est un texte de 1983. Et vous nous le lisez dans une traduction de Christine Zetounian-Bellous.
4 février 1982, c'est écrit à New York. Cher Igor Markovitch, je me permets de vous adresser une proposition assez délicate. Voici de quoi il s'agit. Depuis 3 ans déjà, je cherche à éditer mon livre sur les camps. Depuis 3 ans dans l'urgence. Il aurait fallu publier La Zone avant tout le reste. Elle a marqué le début de mon satané métier d'écrivain. Mais trouver un éditeur pour ce texte n'est pas une mince affaire. J'ai essuyé 2 refus. Je préfère n'en rien vous cacher. Pour des motifs pratiquement identiques. Si cela vous intéresse, je peux vous en citer l'essentiel. On a déjà tout dit sur le goulag. Le lecteur est là, des tonnes de mémoires parues sur ce thème. Après Solzhenitsyn, le sujet est clos. Un tel raisonnement ne résiste pas à la critique. Évidemment, je ne suis pas Solzhenitsyn. Cette circonstance me prive-t-elle du droit d'exister? Et puis nos livres sont totalement différents. Solzhenitsyn décrit les camps de prisonniers politiques, moi les camps de prisonniers de droit commun. Solzhenitsyn était un détenu et moi un gardien. D'après Solzhenitsyn, le camp c'est l'enfer. Je pense que l'enfer c'est nous-mêmes. 17 février 82, toujours à New York. Les histoires d'amour se terminent souvent en prison. Je me suis simplement trompée de porte. J'ai atterri de l'autre côté des barreaux. Ce que j'ai vu m'a profondément ébranlée. Vous connaissez l'histoire classique du petit pauvre qui regarde par la fente du mur d'une belle propriété. Il voit un gosse de riche monter un poney. À dater de ce jour, sa vie entière est soumise à un seul but, gagner beaucoup d'argent. Il ne pourra jamais plus vivre comme par le passé. L'accès à une réalité cachée a empoisonné son existence. Moi aussi, j'ai regardé par une fente du mur. Sauf que je n'y ai pas découvert le luxe, mais la vérité. La complexité et la variété de la vie m'ont secouée. J'ai vu à quel point l'homme peut tomber bas, à quel point il peut planer au-dessus des contingences. Pour la première fois, j'ai compris ce que signifie la liberté, la cruauté, la violence. J'ai vu la liberté derrière les barreaux. Une cruauté absurde comme la poésie. Une violence banale comme l'humidité. J'ai vu l'être humain ravalé au rang de bête et j'ai vu ce qui peut encore lui procurer de la joie. Je crois que mes yeux se sont ouverts. Le monde où je me suis trouvée plongée était épouvantable. Dans ce monde, on se battait avec des limes aiguisées, on mangeait du chien, on se tatouait le visage et on violait les chèvres. Dans ce monde, on tuait pour un paquet de thé. J'ai vu des hommes au passé cauchemardesque, au présent répugnant et à l'avenir tragique. Je me suis liée d'amitié avec un individu qui avait salé sa femme et ses enfants dans un tonneau. Ce monde était atroce, mais la vie continuait. Je dirais même plus. Elle conservait des proportions normales. Le dosage du bien et du mal, de tristesse et de joie demeurait inchangé. On y trouvait de tout. Travail, dignité, amour, dépravation, patriotisme, richesse, misère. Ce monde avait ses prolétaires et ses oligarques, ses carriéristes et ses têtes brûlées, ses conformistes et ses rebelles, ses fonctionnaires et ses dissidents. Sauf que ces notions n'avaient plus le même contenu. L'échelle des valeurs était totalement bouleversée. Ce qui paraissait important se voyait relégué au second plan. Des riens masquaient l'horizon.
Le roman s'appelle La Zone, souvenir d'un gardien de camp. Il a paru en 1983. Et donc, c'est le récit de la jeunesse et de ce moment particulier dans la vie de Sergueï Dovlatov. Mais dans l'extrait que vous avez choisi, Yolande Zoberman, ce qui ressort notamment à la fin, c'est l'idée que quand le monde est plus que soumis à sa dépravation, à sa dureté, à sa violence, il reste la vie dans les proportions habituelles. C'est juste que les curseurs sont pas au même endroit, donc comment on les voit, quoi.
En fait, ce qui est extraordinaire, c'est que Dovlatov, il avait fait des études. Tout le monde pensait que lorsqu'il a fait l'armée, il allait avoir un travail de journaliste à l'armée. Et c'est lui qui a demandé à être gardien de camp. Et il a vraiment voulu voir, quoi, voir de ses yeux. Et ce qu'il raconte me fait penser à... Moi, pour faire... moi, Yvan-Thomas Abraham, j'avais fait des recherches et je travaillais avec quelqu'un qui s'appelait Patrick Charles Messens. On faisait toujours les recherches ensemble. Et je lui avais dit, fais comme si je n'y connaissais rien, comme si je n'étais pas juive, comme si... Et je lui avais donné des profils et on allait voir des gens et on avait un pacte, c'était de ne jamais parler de la guerre, pour que les souvenirs ne soient pas revisités par ce qu'ils avaient vécu après. Et il y a un homme, pendant que j'ai changé...
Pour que les souvenirs des années 30 ne soient pas
recouverts de la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, et tous me disaient, vous savez, c'est la première fois qu'on en parle, même à nos enfants, on n'a jamais raconté. Et il y en a un qui m'a dit, pendant que j'ai changé les cassettes, il y avait encore des cassettes, je sais que j'ai pas le droit de parler de la guerre, mais je veux juste vous dire une chose. J'ai connu une situation où l'état d'homme était impossible. Mais même dans cette situation, j'ai rencontré des hommes. Les hommes, ça existe. Et je me souviendrai toujours de ce qu'il m'a dit. Et Dovlatov, c'est ça. Voilà. Dovlatov, c'est l'humanité.
Même quand l'humanité est dans son état.
Drôle et choisi. Enfin, c'est quelqu'un de particulier qui choisit toujours une place étrange. Mais sans calcul, avec une grande innocence avec ce que j'ai lu, le passage est assez dramatique, mais en général c'est assez drôle et voilà, c'est vraiment un auteur à découvrir.
Vers quoi se dirige votre troisième choix, Yolande Zauberman?
Alors, on peut passer à Roberto Bolaño.
Allez. Alors, comment vous découvrez Roberto Bolaño?
Bah, je découvre parce que, en fait, c'est Nadav Lapid qui me dit, t'as pas lu les Détectives Sauvages? Et j'ai dit non. Il m'a dit, mais il faut absolument lire ça, c'est génial. Et donc, j'ai lu et effectivement, j'ai trouvé ça absolument génial. C'est génial parce que c'est un roman de l'excès. D'abord, c'est un roman où la poésie est centrale puisque c'est une enquête faite par des jeunes poètes qui vont retrouver des poètes plus anciens, et ça rappelle à quel point la poésie en Amérique du Sud, mais même en Amérique tout court, est tellement plus vivante que chez nous, en fait. Il y a quelques jours, j'ai vu un film sur Anne Wildman, la poétesse américaine, et on se rend compte que, voilà, toute la Beat Generation qui continue à vivre la poésie jusqu'à aujourd'hui, et même il y a des jeunes poètes de toute origine qui sont là et qui partagent. Et faire de la poésie, ça veut dire vivre autrement. Ça engage une façon de vivre. Et je crois qu'on n'a pas l'équivalent.
Quand vous dites « on », c'est « nous » en France.
Ouais, nous en France.
Aujourd'hui ou dans l'absolu?
Je sais pas. Peut-être que ça a existé à un moment, mais peut-être avec les surréalistes Mais aujourd'hui, je le vois pas, non.
Peut-être
je peux voir dans la philosophie, effectivement, des gens qui vivent ce qu'ils cherchent, qui vivent l'émotion, mais pas que l'émotion, en fait, hein. Moi, la philosophie, quand elle est juste, je la trouvais toujours émouvante, quoi. Quand tout d'un coup, une chose est bien nommée et qu'on s'est dit, oh, c'est ça. C'est vraiment ça. Et, c'est pour ça que j'aime bien l'oralité dans la philosophie. Mais peut-être aussi parce que je suis un peu superficielle, je sais pas. Mais il y a quelque chose.
C'est quoi le rapport?
Ben, parce que j'aime bien que les choses m'arrivent. J'aime bien que les choses.
C'est superficiel?
Ouais, mais j'aime bien les entendre, j'aime bien, au fond, être seule dans un livre de philosophie m'intéresse assez peu. Et d'ailleurs, il paraît qu'avant, les philosophes jouaient à la guitare leur texte.
Leur concept.
et ce serait bien que ça recommence.
Bah, écoutez la radio, Yolande Zauberman. C'est un peu ce qu'on fait normalement.
Oui, c'est ça.
Donc, c'est un texte de 1998, Les Détectives Sauvages, et vous avez choisi de nous lire un extrait. On l'entend dans la traduction de Robert Amutio.
Tous, ils l'ont oublié, sauf moi. Les gars, je leur ai dit, à présent que nous sommes vieux et qu'il n'y a plus rien à faire pour nous, Peut-être l'un ou l'autre se souviendra d'elle. Mais ce moment-là, ils l'ont tous oublié. Et ensuite, ils se sont eux-mêmes oubliés. C'est ce qui arrive lorsqu'on oublie les amis, sauf moi. Ou c'est ce qu'il me semble à présent. Moi, j'ai conservé sa revue et j'ai conservé son souvenir. Ma vie, probablement, me le permettait. Comme tant d'autres Mexicains, moi aussi, j'ai abandonné la poésie. Comme tant de milliers de Mexicains, moi aussi, j'ai tourné le dos à la poésie. Comme tant de centaines de milliers de Mexicains, moi aussi, leur venue, j'ai cessé d'écrire et de lire de la poésie. À partir de ce moment, ma vie a suivi le cours le plus triste qu'on puisse imaginer. J'ai fait de tout, j'ai fait ce que j'ai pu. Un beau jour, je me suis retrouvée à écrire des lettres, des documents incompréhensibles, sous les arcades de la place Santo Domingo. C'était un boulot comme un autre, du moins pas pire que beaucoup d'autres que j'avais eus. Mais je n'ai pas mis longtemps à m'apercevoir que j'allais rester pour un bon bout de temps là, vissée à ma machine à écrire, à mon stylo et à mes feuilles blanches. Ce n'est pas un mauvais travail, parfois même je ris. J'écris aussi bien des lettres d'amour que des sollicitations, des requêtes auprès des tribunaux, des réclamations pécuniaires, des suppliques que les désespérés envoient aux prisons de la République, et ça me laisse le temps de discuter avec les collègues, des écrivains publics, chevronnés comme moi, une espèce en voie d'extinction, ou de lire les dernières merveilles de notre littérature. Alors là, c'est quelqu'un qui s'appelle Amado qui parle d'une femme que les détectives sauvages recherchent. Et donc, il y a toute cette enquête qui va traverser le monde. Et
c'est qui cette femme? Elle fait quoi? Pourquoi elle la cherche?
Mais en fait, elle a fait très peu de choses. Elle a visiblement énormément plu à Amadeo et à d'autres hommes à ce moment-là.
Mais elle est poétesse?
Elle est poétesse, ils sont tous poètes. Et c'est la quête qui est importante. C'est la quête de... Alors, le livre, c'est vraiment comme un millefeuille, parce qu'en même temps, c'est un thriller, en même temps, c'est un livre de poésie, en même temps, c'est un livre érotique, en même temps, vraiment, c'est comme s'il mélangeait tous les genres, et on sait même pas qui parle vraiment. Puisqu'il y a plein de gens qui parlent différents, c'est vraiment une structure absolument extraordinaire, et qui ressemble à la vie de son auteur.
Parce que de Bolaño.
Ouais. Parce que, en fait, il a vécu comme ça.
Donc, il est mort en 1953, il est mort en 2003, Roberto Bolaño.
Ouais, en même temps, voilà, un des personnages est gardien d'un camp de vacances, lui sait ce qu'il a fait, sur un bateau, lui sait ce qu'il a fait. Donc, il parle, en même temps, il transpose sa vie.
Il y a une matière autobiographique, ouais.
Ouais, et en même temps, c'est totalement un roman, quoi. C'est énorme, c'est extraordinaire.
Donc, bon conseil de Nadav Lapid.
Ouais. Ça, c'était vraiment, c'était une découverte, c'est génial. Et donc, j'ai découvert en même temps qu'il y avait des fans absolus des détectives sauvages.
Et de Bolaño en général, ouais.
Et de Bolaño en général. Enfin, il n'a pas écrit tant de livres que ça. Et des gens dont ça a justement changé la vie. Voilà. Et en ce moment, je trouve que, puisque moi, j'aime beaucoup le cinéma, il y a un film qui s'appelle Un poète, qui est un très beau film colombien. Et c'est là aussi où on se rend compte que la poésie est tellement centrale dans cette Amérique du Sud. Mmh. Et Bolaño, ça m'a fait penser à ça. C'est très beau.
Il y a deux textes dans vos choix, Yolande Zuberman, qui nous reste à évoquer. Un texte de Selim Nassib qui s'appelle « Le tumulte » ou un texte d'André Schwarzbart, « Le dernier des justes ».
Oui. Alors, on va peut-être... passer à André Schwarzbart et finir avec le tumulte.
Alors on va écouter sa voix.
Ça s'inscrit dans une vieille tradition juive. Aujourd'hui, les juifs croyants pensent encore que le sort du monde repose sur 36 justes. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que par l'intermédiaire de ces personnes saintes, la souffrance des hommes est purifiée et qu'elle s'élève jusqu'au monde divin. Ils sont en quelque sorte les rédempteurs de nos souffrances qu'ils portent entièrement sur les épaules.
C'est la voix d'André Schwarzbart qui évoque Le Dernier des Justes. C'est une archive de 1959, l'année de parution, une archive de la RTF, Yolande Zauberman, et c'est aussi l'année où il obtient le Goncourt pour ce texte.
Ouais.
Pourquoi vous l'avez choisi dans ces cinq livres étapes?
C'est un des livres que j'ai lu quand j'étais petite.
Mais la petite fille paralysée dont vous parliez?
Voilà, c'est un des livres que j'ai lu.
Mais quel
enfant.
Âge?
Oh, j'ai dû le lire à 7 ans. Et c'est un livre que j'ai lu 3 fois dans ma vie. Et à chaque fois, je l'oublie entièrement. Mm. Mais je suis toujours hypnotisée par ce livre. Je me souviens toujours que d'une seule phrase.
C'est laquelle?
Qui dit « Est-ce pour la vie qu'il faut abandonner les raisons de la vie ?» Est-ce pour garder la vie qu'il faut abandonner les raisons de la vie? Et Schwarzbart, en plus, avec sa femme Simone, c'est un homme qui, à 14 ans, a vu sa famille être arrêtée. Il a réussi à s'échapper pendant la guerre. Donc, ils ont été arrêtés par la Gestapo. Ils ont été envoyés à Auschwitz. Ils sont morts. Et lui, le seul à avoir survécu, il est rentré dans la résistance. Il a été arrêté. Il a été torturé. Il s'en est sorti quand même. Et voilà, et la guerre se termine, il est quand même encore tout jeune, il reprend des études, il est très dépressif. Et moi, sa rencontre avec sa femme, je ne sais pas si elle s'est passée comme ça ou si je l'ai rêvé, mais j'ai rêvé une chose mais à laquelle je pensais mais souvent et qui me consolait. Et je croyais qu'en fait, un jour, il était dans le métro. Et il attendait le métro et elle était sur le quai d'en face. Et donc elle, elle est guadeloupéenne. Et un métro arrive et il ne monte pas dedans. Et de son côté à elle, un moto arrive. Elle ne rentre pas dedans. Ainsi de suite, comme ça, 2 fois, 3 fois.
Et ils se regardent.
Et puis, ouais.
Et puis, j'adore.
Et puis elle fait le tour et elle s'assied à côté de lui.
C'est elle qui bouge.
Ouais. Elle est plus joyeuse que lui. Et en fait, voilà, c'est un grand amour quand il a le Goncourt et qu'il a énormément de succès. En plus, ils sont tous les deux très beaux, très rock en fait. Et il s'enfuit. Il fuit la célébrité, il fuit le succès, il se protège. Et ils vivent cette grande histoire. Et ils font un pont entre leurs histoires, c'est-à-dire entre l'histoire de l'esclavage, qui est l'histoire de sa famille à elle, et l'histoire de la Shoah, qui est son histoire à lui. Et ensemble, ils écrivent des livres. Et pour moi, Schwarzbart et sa femme, c'était un astre, quoi. Mais je dois dire que quand j'étais petite et que j'ai lu Le Dernier des Justes, et justement par rapport au texte que vous avez passé de Schwarzbart quand il parle des 36 justes, moi, dans ma mégalomanie, peut-être, je pensais être une des justes. Et c'est-à-dire, je me disais, toute cette souffrance, ah ben voilà, c'est ça. Et en fait, c'est terrible parce que...
Mais vous le rattachiez à votre souffrance.
Ouais, les justes n'avancent l'arrivée du Messie que d'une minute, pas plus. C'est terrible. Et non, mais franchement, je sais que je vais relire encore son livre, que je vais de nouveau tout oublier, mais je pense que les grandes œuvres, c'est comme ça. On oublie tout, à part 1 ou 2 détails, et on reprend, et c'est un livre extraordinaire. C'est quelqu'un d'extraordinaire.
C'est marrant que vous évoquiez, pour parler de ce texte de 1959, finalement, 2 amours dont la pensée, l'art, le travail se rejoignent, parce que le dernier texte que vous avez choisi de lire, c'est Le Tumulte,
oui,
de Céline Nassib. Or, il y a des choses qui se rejoignent avec Céline Yolande Zauberman.
Voilà, donc
et on entend des pages. Je cherche un extrait possible du Tumulte. Est-ce que vous voulez nous parler de ce choix?
Moi, c'est un livre que j'aime beaucoup.
Moi aussi.
C'est un livre très riche qui se passe au Liban.
J'ai trouvé l'extrait que je cherchais. C'était une possibilité, c'était la scène du cordonnier.
Ouais. Oui, j'ai choisi cette scène. Il y aurait pu y avoir plein d'autres scènes.
Donc, c'est un livre qui se passe au Liban. Pardon, je vous ai coupé.
C'est un livre qui se passe au Liban. En fait, Selim Nassib, c'est quelqu'un qui est un peu un zélig, en fait, il est, c'est l'anti-oiseau bariolé. Ça, c'est un livre dont j'aurais pu parler aussi, que j'ai lu adolescente, que j'ai adoré. L'oiseau bariolé, c'est, si vous en souvenez, c'est un livre de Jerzy Kosinski, et ça vient de sa propre histoire, c'est-à-dire comme enfant, il était très 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 brun, ses parents l'ont confié à une famille de paysans polonais pendant la guerre pour le cacher, il était juif. Et en fait, Jerzy Kosinski, avec la tête d'oiseau qu'il avait, était toujours ce qu'il fallait pas être. C'est-à-dire gitan quand les gens détestaient les gitans, juif quand les gens détestaient les juifs, ainsi de suite, bourgeois quand les gens, ainsi de suite. Donc, il écrit ce livre qui est, je trouve, magnifique. Et à un moment dans le livre, le petit garçon travaille pour un oiseleur. Et l'oiseleur est très amoureux d'une nymphomane. Et chaque fois que son amoureuse part avec des hommes, il souffre et il prend un oiseau et il le peint de toutes les couleurs et il le blesse. Et les oiseaux de la famille de l'oiseau viennent autour, reconnaissent le cri et viennent autour. Et à ce moment-là, l'oiseleur laisse l'oiseau partir et il se retrouve au milieu des siens, les oiseaux, qui ne le reconnaissent pas et qui le tuent. Donc c'est une histoire absolument terrible. Je dirais que Selim Nasib, c'est le contraire de ça. C'est-à-dire que il est musulman avec les musulmans, chrétien avec les chrétiens, juif avec les juifs, il est féministe avec les femmes, ça lui permet de rentrer dans tous les milieux, il est iranien parce qu'il a un passeport iranien avec le Hezbollah, il peut rentrer dans tous les milieux et donc enquêter sur tous ces aspects au fond de son monde, hein, et qui sont devenus par la force des choses des aspects de sa personnalité. Et ce livre est le produit de toutes ces identités.
Avec un titre programmatique, Le Tumulte. On vous écoute.
Un cordonnier ambulant apparaît, une silhouette voûtée qui dérive au milieu de la chaussée sans lever la tête vers les étages, sans appeler. Le barda qu'il transporte est comme un ballon qui le soutient. Ses pieds touchent à peine terre. Il zigzague parmi les passants sans les heurter. Youssef, je ne réponds pas. Elle n'y peut rien. Sur le balcon, je suis hors de portée. Elle appelle le cordonnier et lui demande de monter. Je vais à la porte. Un des spécimens du fleuve va être amené sur la rive pour un moment. Je vais pouvoir l'observer. Il s'installe sur le palier, encerclé par les chaussures à réparer. Les rides se perdent sur son visage. Il garde les yeux baissés. Ses mains sont longues et larges. Elles bougent toutes seules. On voit les veines sombres qui serpentent sous sa peau. Il serre le cuir ruisselant contre son tablier, en amoureux, et lui coupe la gorge en même temps. Son couteau aiguisé fait dans la matière un bruit mat, attirant. D'une petite boîte ronde, il prend une petite poignée de clous qu'il met dans sa bouche. Des clous à tête ronde et plate qu'il avale. Il se laisse conduire comme les aveugles par le toucher. L'une de ses mains lève le marteau, l'autre exécute un rapide aller-retour. Un clou est apparu dans un pli de sa lèvre. Il est passé entre ses doigts, frappé d'un coup unique, enfoncé dans la profondeur du cuir. Un autre suit aussitôt. Maman sort sur le palier, me prend par le bras et m'entraîne. Ne reste pas là, c'est un Palestinien. Une ombre passe dans son regard. Je suis sur la piste. Ce cordonnier sans yeux fait partie de la nébuleuse dont il faut avoir peur. Je tiens une fraction du mystère. Je ne le lâcherai pas. Il n'a pas bougé. Je m'approche de lui. Très lentement, il relève la tête et me regarde. Ses paupières sont ramassées en plis lourds. Ses yeux sont rouges. De minuscules veines y ont éclaté. Ce regard, c'est vrai qu'il est terrible. Vaut mieux qu'il le soit. Je me livre avec défi, décidé à savoir. Mais je ne vois qu'un cordonnier, assis à réparer des chaussures. Est-ce que c'est ça, un homme ? Palestinien, j'ai déjà entendu ce mot, mais je ne sais pas ce qu'il veut dire. Et maintenant, je retiens que ce sont des êtres bizarres, mangeurs de clous, et plus ou moins voleur d'enfants. Et je comprends soudain que j'ai envie d'être volée.
C'est beau cet extrait.
Mmh. Oui, c'est beau et c'est... Voilà, quand on parle de chercher l'autre, de...
De le voir, ça me fait penser à quelque chose que vous dites souvent, Yolande Zuberman, que...
On est ce qu'on voit.
On est ce qu'on voit et surtout, c'est de ne pas voir qui permet de haïr, de tuer,
complètement,
de diviser. Quand et on voit, c'est plus dur.
C'est impossible. Quand on voit, c'est gagné. Quand on voit la complexité d'ailleurs qui a la possibilité d'exister dans les livres plus que au cinéma et au cinéma plus que dans la vie, c'est cette complexité-là, moi, qui m'attire. C'est celle-là qui me touche et dans ce que je lis, dans ce que je vois, dans ce que je regarde.
Merci beaucoup d'avoir déballé votre bibliothèque pour nous.
Merci.
Pour cet épisode du Book Club, c'était Alexandre Dang à la réalisation Vivien Demeyer. Pour retrouver tous les textes choisis, lus et commentés par Yolande Zuberman, rendez-vous sur la page du Book Club où vous pourrez aussi trouver tous nos autres portraits de bibliothèque. J'adresse un grand merci à toute l'équipe de l'émission. Vous pouvez, vous le savez, continuer la conversation sur le compte Instagram du Book Club.